Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, 12h30, 14h30, 2 heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs et de témoignages. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Elle était activement recherchée depuis hier. La mère de l'enfant de 10 ans, retrouvée mort dans une valise en Seine-et-Marne, a été interpellée. On reviendra aussi sur ce coup de théâtre politique, le retour de Marion Maréchal, et puis ce record, 7% de croissance pour la France. À nuancer tout de même.
Juste après le journal, nos deux sujets du jour. Marion Maréchal, qui ne votera donc pas pour Marine Le Pen? Est-ce un tournant dans la campagne de Marine Le Pen? Et à 12h50, pourquoi si peu de femmes patronnes? Faut-il des quotas? On pose la question alors que Christelle Heidemann a officiellement été nommée ce matin pour diriger le groupe Orange.
Notre question du jour sur RTL.fr. Présidentielle, Marion Maréchal doit-elle s'investir dans la campagne? C'est très partagé. Vous dites oui à 42%, non à 40%. La météo du jour, c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
On n'en peut plus, mais il n'y a pas de changement.
Moi, je ne sais plus comment vous le dire en fait. Ça fait un mois que ça dure. On va encore garder de la grisaille sur la moitié nord. Alors, cela dit, sur l'extrême nord, entre le nord, la Picardie, la Baie-de-Somme également, on a quelques petites éclaircies. C'est pas fameux, mais enfin, c'est toujours ça. Pas de dégradation pour autant. Plus on descend vers le sud, plus on trouve du soleil, excepté en midi toulousain. Notez que dans le sud, il y aura un très fort mistral à 110 km/h dans la vallée du Rhône. Tramontane à 60 km/h en Languedoc-Roussillon. Les températures, ça bouge pas beaucoup non plus. 4 degrés à Montauban aujourd'hui, 5 à Nancy et Ambérieu, 8 à Paris, 9 à Abbeville, 12 à Brest et 15 degrés à Bastia.
Merci beaucoup Valérie, à tout à l'heure 13h pour le programme du week-end.
RTL Midi.
La mère de l'enfant retrouvé mort hier dans une valise et donc en garde à vue. Elle a été interpellée dans le Val-de-Marne chez un membre de sa famille, Alice Moreno.
Oui, interpellation ce matin qui s'est déroulée sans incident. La suspecte de 33 ans s'était donc réfugiée chez des membres de sa famille à Choisy-le-Roi. Elle avait quitté son domicile de Ferrières-en-Brie avant-hier avec son fils de 10 ans. Son mari, inquiet, avait signalé cette disparition. Mais hier, le corps du petit garçon a été découvert dans une valise et jeté dans une benne à gravats. Les enquêteurs de la police judiciaire ont procédé ce matin à des constatations, des prélèvements dans le logement de Choisy-le-Roi où elle s'était réfugiée, afin peut-être d'établir un lien avec la découverte du corps de l'enfant hier. Et puis tout le monde a été emmené dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. La mère soupçonnée d'infanticide vient donc d'être placée en garde à vue. Quant aux membres de sa famille chez qui elle avait trouvé refuge, ils sont entendus comme témoins.
Alice Moreno du service police-justice de RTL.
L'actualité politique à présent et ce retour, celui de Marion Maréchal.
Des confidences à la fois dans le Parisien et dans le Figaro. À 2 mois et demi du premier tour de la présidentielle, la nièce de Marine Le Pen l'assure, elle ne votera pas pour sa tante et se donne 1 mois pour soutenir ou non Éric Zemmour. Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
Vous nous confirmez ce midi sur RTL qu'elle envisage sérieusement, très sérieusement même, un retour en politique.
Oui, je pense que sa décision est prise, me dit tout à l'heure un de ceux qui a pu échanger avec Marion Maréchal ces dernières heures. Alors, personne n'ose parler à sa place, hein. Mais ça ne fait pas doute. Oui, elle a envie de revenir, elle le dit même dans le Figaro, et ce ne sera pas chez Marine Le Pen, donc par élimination, ce serait du côté d'Éric Zemmour. Mais pour l'instant, elle se laisse encore planer le suspense. Quand annoncer ce ralliement? Il n'y a pas de mauvais moment pour annoncer une si bonne nouvelle, me confiait tout à l'heure un proche d'Éric Zemmour, mais sur le fond, ce n'est pas une surprise, à savoir quand elle va le faire. Les deux se connaissent très bien, ils s'apprécient, ils sont tous les deux pour une fusion des droites, et pour Marion Maréchal, cette union des droites, Marine Le Pen n'a pas été capable de le faire, et aujourd'hui la dynamique est plutôt du côté d'Éric Zemmour, même si les sondages ne sont pas tout à fait de cet avis. Alors sera-t-elle présent la semaine prochaine à Lille lors du grand meeting d'Éric Zemmour, en même temps que la convention présidentielle de Marine Le Pen? Hier soir, l'option était exclue. Ce matin, c'est une hypothèse qui peut être réalisable.
Thomas Després du service politique, et vous évoquiez à l'instant Marine Le Pen. Écoutez justement sa réaction ce matin, c'était sur CNews.
Je pense que si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait. J'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l'ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. Donc évidemment, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi. On ne s'y attend jamais vraiment. Si vous voulez, je trouve que d'abord c'est une incompréhension politique déjà parce qu'elle avait indiqué qu'elle soutiendrait celui qui est le mieux placé. Bon, incontestablement, je suis beaucoup mieux placé aujourd'hui qu'Éric Zemmour. Et je crois, compte tenu des sondages de second tour, en capacité de gagner face à Emmanuel Macron. Mais je suis à côté de l'aspect politique. Effectivement, l'aspect personnel. Bon, allez, passons à autre chose.
Marine Le Pen ce matin sur CNews. Alors, est-ce un tournant dans cette campagne ? Marion Maréchal a-t-elle un réel poids politique ? On en débattra dès 12h40.
Notre chiffre du jour, c'est cette croissance record, bien sûr, plus 7% en 2021. C'est du jamais vu depuis 52 ans. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Attention, toutefois, ces chiffres, il faut les relativiser.
Oui, car derrière le spectaculaire dont on peut se réjouir, bien sûr, il y a la réalité des chiffres et elle est implacable, comme l'explique l'économiste Marc Toiti, président du cabinet à CDFI.
On a une croissance de 7%, c'est bien sûr une bonne nouvelle, mais ne l'oublions pas, elle ne vient que corriger la chute qu'on avait eue en 2020, où là, le PIB français avait chuté de 8%. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle, mais il n'y a pas de quoi pavoiser. Si on regarde la moyenne de 2021 par rapport à la moyenne de 2019, on est encore sur une baisse de 1,6%.
Pas de quoi pavoiser, certes, mais ces résultats restent encourageants sur le court terme, mais ces 7% de croissance ne vont pas continuer éternellement. En temps normal, la croissance française est autour de 1,5%, mais l'inflation gagne également du terrain en ce moment et les aides exceptionnelles pendant la crise sanitaire vont peu à peu s'arrêter. La croissance devrait donc se normaliser. Au fond, tout se joue maintenant et la France va devoir donc transformer l'essai dans les prochains mois.
Arnaud Touche du service économie de RTL. Autre chiffre, c'est celui des classes fermées pour cause de Covid et un nouveau record puisque l'on compte aujourd'hui 21 000 classes fermées contre à peu près 18 000 vendredi dernier. Plus d'enseignants testés positifs, plus d'élèves aussi. Odile Pouget, ce n'est pas très surprenant. Le taux d'incidence reste en effet très élevé chez les enfants.
Oui, explosion de ce taux d'incidence, particulièrement chez les 6-10 ans, avec 7000 cas pour 100 000 sur une semaine. On était à 1500 début janvier. Incidence encore plus forte chez les 11-14 ans. Là, on est à 7600. C'est quand même le double du taux national. Concernant les hospitalisations, là aussi, elles sont en hausse. Hospitalisations qui touchent actuellement plus de 1000 enfants et adolescents. Alors, il faut savoir que 80% d'entre eux ont été admis à cause du Covid. Les autres, ils sont soignés pour d'autres pathologies, mais ils ont été testés positifs. Ce que l'on observe aussi sur les trois premières semaines de janvier, c'est une augmentation très nette des syndromes inflammatoires plurisystémiques pédiatriques, ce qu'on appelle les PIMS, vous savez, avec de fréquentes atteintes cardiaques qui se déclarent généralement plusieurs semaines après l'infection. Alors, selon Santé publique France, on peut penser quand même que ces formes cliniques de PIMS liées au variant Omicron se révèlent moins sévères que celles liées à Delta.
Odile Pouget, spécialiste santé ici à RTL. C'est dans ce contexte que Jean-Michel Blanquer doit décider ou non le calendrier des épreuves de spécialité du bac prévu mi-mars. Le ministre de l'Éducation nationale sera ce soir l'invité d'RTL. Rendez-vous à 18h15 avec Marion Calais.
Emmanuel Macron, lui, s'entretient en ce moment même avec Vladimir Poutine.
La discussion, bien sûr, autour de la crise ukrainienne. Le rendez-vous était fixé à 10h45 et est visiblement toujours en cours. Autre point de tension, le Mali. Jean-Yves Le Drian a prévenu ce matin sur RTL, la France ne pourra pas rester, pas comme ça.
Vu la rupture du cadre politique et vu la rupture du cadre militaire, nous ne pouvons pas rester en état. Et donc nous avons engagé des concertations avec l'ensemble des pays de la coalition. Vous savez, nous sommes dans une coalition.
Mais il faut rester ou pas là-bas ?
On ne peut pas rester comme cela. Ce n'est pas uniquement une décision française, c'est une décision collective pour savoir comment on peut adapter notre dispositif pour continuer à combattre le terrorisme.
Jean-Yves Le Drian avec Alba Ventura ce matin sur RTL. Bonjour Émilie Beaujard.
Bonjour.
On ne peut pas rester pas comme ça, dit ce matin donc le ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire qu'on peut rester.
Oui, on peut et surtout on ne peut pas partir comme ça à la va-vite car il y a le principe de réalité. Barkhane, la MINUSMA, la force de l'ONU et la force européenne Takuba, c'est plus de 18 000 hommes en tout. Rien que le départ des 4 800 soldats français, eh bien cela prendrait plusieurs mois, voire une année. Ensuite, l'état-major le rappelle ce matin, le principal le problème du Mali, cela reste le terrorisme et le combattre reste une priorité. D'ailleurs, les opérations se poursuivent sur le terrain. Rien qu'au mois de janvier, les avions de chasse français sont sortis une centaine de fois pour mener des opérations. Donc pour l'instant, pas question pour la France de quitter le Mali. Mais il est clair qu'il devient de plus en plus compliqué de s'y maintenir avec le pouvoir malien qui multiplie les provocations et gêne certaines opérations.
Émile Beaujard du service étranger de RTL. Nadal, qualifié pour la finale de l'Open de tennis d'Australie, l'Espagnol a battu l'Italien Berrettini, tombeur de Gaël Monfils. Il peut ainsi décrocher dimanche son 21e titre en Grand Chelem et devenir le seul et l'unique détenteur de titres en la matière. Performance incroyable à 35 ans, mais pour lui, cette victoire, c'est surtout une reconnaissance un an après sa grave blessure au pied.
J'ai traversé beaucoup de moments difficiles, de très longs jours de travail acharné, sans voir la lumière au bout du tunnel. Au-delà de ce travail, il y a eu des conversations aussi avec mon équipe, ma famille, sur ce qui pouvait arriver si les choses continuaient comme ça. Et oui, j'ai pensé que c'était peut-être la fin, peut-être le moment de dire au revoir. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps. Alors, être là où je suis aujourd'hui, je ne peux pas expliquer avec des mots à quel point c'est important pour moi.
Raphaël Nadal au micro RTL de Christophe Mallet. Nadal qui affrontera donc dimanche Daniil Medvedev en finale de cet Open d'Australie. Le Russe a battu tout à l'heure le Grec Tsitsipas en 4-7.
Le handball ?
Oui, avec les Français qui affrontent ce soir la Suède en demi-finale de l'Euro. Coup d'envoi à 20h30. Et puis il y a aussi du foot, début des huitièmes de finale de la Coupe de France. Nantes, Brest, tout ça bien sûr, ce sera à suivre dès 20h. Dans RTL Foot, ils vont faire un peu de hand en même temps.
Une pause et dans un instant donc notre premier débat et cette question, le retour de Marion Maréchal, peut-il vraiment gêner sa tante Marine Le Pen ? A tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
C'est vrai que j'ai plutôt tendance à plaider pour une candidature unique derrière le mieux placé, ce qui me permettrait de ne pas choisir, si ce n'est le mieux placé que la campagne finalement définira.
Ça, c'était mi-novembre. Chez nos confrères de CNews, Marion Maréchal refusait de choisir entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Elle assurait qu'elle se rallierait derrière le mieux placé. Deux mois et demi plus tard, changement de ton avec ses confidences ce matin dans Le Parisien d'abord. Puis, il y a quelques minutes dans Le Figaro, Marion Maréchal explique qu'elle ne soutiendra pas sa tante et se donne un mois pour rejoindre ou pas Éric Zemmour. Alors, est-ce un tournant dans cette campagne ? Marion Maréchal, d'ailleurs, a-t-elle un réel poids politique ? Bref, ce nouvel épisode de la saga Le Pen peut-il changer la donne ? C'est le premier débat de RTL Midi. Avec nous, Benjamin Sportouche. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Chef du service politique de RTL et Adélaïde Zulfikarpazic. Bonjour, directrice du département opinion chez BVA. Merci beaucoup
bonjour.
D'être en direct avec nous Adélaïde. Un mot d'abord, Marion Maréchal avait dit, on l'a entendu, qu'elle soutiendrait le mieux placé. Quand on regarde notre enquête BVA pour RTL et Orange, on est d'accord, dans les sondages en tout cas, Marine Le Pen est toujours la mieux placée.
Oui, effectivement, elle est la mieux placée et de manière beaucoup plus claire qu'à l'automne où, souvenez-vous, certains sondages la donnaient au coude à coude avec Éric Zemmour. Là, dans notre dernière enquête publiée ce matin, elle est clairement devant lui, créditée de 18% des intentions de vote, alors que lui recueillerait pour l'instant 12,5% des voix au premier tour. Donc là, on n'est plus dans la marge d'erreur. Il y a clairement un écart entre les deux. Elle est la mieux placée.
Et Benjamin, pourquoi du coup ce choix, ce retour comme ça maintenant ?
Écoutez, on va laisser de côté pour l'instant la psychologie, mais elle est très importante, hein, bien sûr, dans cette histoire, dans ses relations familiales avec Marine Le Pen. Mais elle pense clairement qu'il y a une dynamique politique du côté d'Éric Zemmour. C'est ce qu'elle dit, en fait, tout au long de ses interviews. Elle est bluffée par le fait qu'il ait pu réunir 90 000 adhérents, alors que c'est vrai que le nombre d'adhérents au Rassemblement National soit stagne, soit un peu baissé, que la base électorale sur le terrain nous dise... Des gens du Rassemblement National sont moins mobilisés qu'il y a quelques mois à cause de la défaite au régional notamment. Donc oui, Marion Maréchal pense que la dynamique est de ce côté. Et puis, elle a clairement, il faut le reconnaître, une sorte de lien idéologique fort avec Éric Zemmour puisqu'elle croit dans la fusion des droites, ce qui n'est pas le cas de sa tante.
Alors ça, c'est une analyse possible. Moi, je vous en propose une autre. Elle est dans le coup d'après. Elle sait que ça va être très difficile cette fois-ci de gagner. Elle ne veut pas supporter précisément Marine Le Pen qui peut être une nouvelle fois en échec. Et elle pense au lendemain de cette présidentielle où il faut faire la fusion de droite, où elle se sera affichée avec Éric Zemmour et elle devient une leader naturelle de cette fusion de droite.
Est-ce qu'elle serait une leader naturelle? Que fait Éric Zemmour dans ce cas-là? C'est-à-dire, est-ce qu'elle pense qu'Éric Zemmour, elle pourrait faire tandem avec Éric Zemmour? C'est compliqué quand même, parce qu'on voit très bien aussi qu'Éric Zemmour pense qu'il ne doit qu'à lui-même le succès politique éventuel qu'il a aujourd'hui et celui qu'il pourrait avoir. C'est pas facile de partager en politique, vous le savez, Pascal.
Adélaïde, quel poids elle représente Marion Maréchal, pour être très clair? Est-ce que si elle rejoignait Éric Zemmour, ça aurait une influence sur les électeurs de Marine Le Pen ou d'autres d'ailleurs?
Ah, oui, d'autres, vous avez raison de poser la question, j'y reviendrai dans un instant. Combien elle pèse, c'est compliqué de le dire. Ce qu'on peut voir en revanche, c'est qu'aujourd'hui, on sait ce que prend Éric Zemmour déjà à Marine Le Pen. Il capte environ 20% des sympathisants du Rassemblement National. Il prend à Marine Le Pen à peu près un quart de ses électeurs du premier tour de 2017.
Et ça, il continue effectivement... à en prendre ou c'est quelque chose d'à peu près figé?
Alors, c'est quelque chose d'assez stable dans les enquêtes. Et justement, avec l'aide de Marion Maréchal, il pourrait aller en chercher davantage. Parce que c'est vrai qu'elle jouit d'une certaine popularité chez les sympathisants du Rassemblement National, même si, il faut le souligner, cette popularité, elle est moins forte que celle de sa tante, elle est surtout moins forte qu'il y a quelques années quand Marine Le Pen était, elle, un peu dans le creux de la vague, notamment après son échec à la présidentielle et le fameux débat d'entre deux tours. Mais Marion Maréchal, donc, elle est quand même plutôt, c'est la deuxième personnalité préférée des sympathisants RN, donc elle est quand même très bien positionnée, et elle pourrait notamment constituer un atout pour Éric Zemmour auprès de certaines catégories où il a du mal à marquer des points. Je pense notamment aux femmes. Aujourd'hui, Éric Zemmour réalise des scores d'intention de vote moins élevés chez elles que chez les hommes, alors qu'à l'inverse, Marine Le Pen, il faut le savoir, est en tête dans les intentions de vote chez les femmes à égalité avec Emmanuel Macron. Donc peut-être qu'avec Marion Maréchal, Éric Zemmour pourrait gommer certaines de ses caractéristiques, on va dire, un peu négatives, comme la misogynie qui lui est reprochée. Et puis il pourrait aussi peut-être aller davantage vers les classes populaires qui aujourd'hui sont complètement, enfin qui sont beaucoup plus proches de Marine Le Pen, qui se reconnaissent beaucoup plus en Marine Le Pen. Et voilà, donc il a cet exercice, en tout cas il c'est une tentative, il pourrait élargir sa base électorale avec Marion Maréchal.
Est-ce qu'elle pourrait être un hameçon, j'allais vous dire, Adélaïde, pour les électeurs, les Républicains? On dit qu'elle peut avoir leur oreille et qu'elle peut faire ce lien-là. En tous les cas, certains cadres des Républicains ne sont pas insensibles à la personnalité et au discours de Marion Maréchal.
Ouais, j'allais venir effectivement. Pour moi, il y a aussi un risque potentiel si elle se ralliait à Éric Zemmour pour Valérie Pécresse, parce que il y a une oreille attentive chez les cadres, mais aussi chez certains électeurs. Éric Zemmour empiète aujourd'hui déjà, certes sur l'électorat de Marine Le Pen, mais aussi sur celui de la droite traditionnelle. Je l'ai dit il y a un instant, il capte un quart des électeurs de Marine Le Pen. Il faut savoir qu'il capte aussi un quart des électeurs de François Fillon au premier tour de 2017. Et il y a un vrai risque pour Valérie Pécresse, dont le socle électoral aujourd'hui est beaucoup plus friable que celui de ses concurrents, notamment celui de Marine Le Pen. Aujourd'hui, sur les électeurs qui nous déclarent avoir l'intention de voter pour Valérie Pécresse, ils sont juste un peu plus d'un sur deux à nous déclarer qu'ils sont sûrs de leur choix, donc ça veut dire que les autres peuvent encore changer d'avis. Mmh. Et quand on voit que Valérie Pécresse doit aussi entre deux lignes, une ligne un peu plus libérale sur le plan sociétal, mais une ligne plus conservatrice, proche de la manif pour tous, proche des mouvements catholiques, bah, cette ligne-là, elle peut se reconnaître dans Marion Maréchal. Et donc ses électeurs, effectivement, notamment ses électeurs de François Fillon, dont aujourd'hui ils sont un tiers à nous dire qu'ils aimeraient que Marion Maréchal ait un rôle plus important à l'avenir, eh bien, il pourrait effectivement empiéter sur l'électorat de Valérie Pécresse, et il y a pour elle un vrai risque.
Benjamin, il y a bien sûr l'aspect politique, et là on vient d'en parler longuement avec Adélaïde, il y a l'aspect familial aussi, cette famille Le Pen, Jean-Marie Le Pen qui tweet il y a quelques minutes, je souhaite m'entretenir dans les prochains jours, dit-il, écrit-il, avec Marine Le Pen et Marion Maréchal, j'exprimerai ma pensée ultérieurement quand je le jugerai utile à la clarté des débats présidentiels et législatifs à venir. On se souvient qu'il avait dit que finalement il ne voterait pas Éric Zemmour, lui.
Ben, rien n'est acquis aujourd'hui, je peux vous dire.
Hein,
dans son entourage, on me dit qu'il verra bien, que pour l'instant, il n'est pas non plus pieds et poings liés vis-à-vis de Marine Le Pen.
Le signe qui est envoyé avec ce tweet, par exemple, doit rendre furieuse Marine Le Pen. On a l'impression que c'est le parrain de Montretout qui prend la parole
beaucoup
pour
d'illusions.
Dire...
Vous savez ce que Marine Le Pen le dit, et même c'est-à-dire elle a plus beaucoup d'illusions sur son père. Elle sait qu'il peut à tout moment avoir une sortie, une saillie qui va la gêner. En revanche, Marion Maréchal, c'est clairement...
Elle avait l'air touchée ce matin, c'était le cas ou c'était
l'affecte. Mais bien sûr, elle était touchée, mais je vous répète, cette intervention dans la campagne, on a l'impression que c'est lui qui va donner son imprimatur pour l'un ou pour l'autre. Donc c'est cela qui est étonnant, et de ce point de vue, Amandine a raison, c'est une saga que cette famille Le Pen, et on le voit bien, les trois sont réunis depuis... quelques heures, et on va parler effectivement du déchirement qui existe politique et familial. Dans...
Et juste d'un mot, on parle du désintérêt des Français pour cette campagne, c'est l'un des enseignements de notre enquête BVA. Est-ce que c'est le genre de choses qui risque de les désintéresser encore plus, Benjamin?
Moi, je pense que ce désintérêt vient aussi de la pandémie, à mon avis. C'est-à-dire qu'on a eu un moment où l'Omicron a monopolisé tous les débats. Cet intérêt va revenir dans la campagne, pas forcément via ce prisme, parce que est-ce qu'elle peut vraiment faire bouger les lignes? Pour l'instant, dans le sondage, les ralliements à Éric Zemmour ne ne le font pas baisser, voire le font baisser. Est-ce que ça peut changer avec Marion? Vous savez, les gens sont beaucoup moins sensibles à ce genre d'événements politiques.
Bon, en revanche, ils sont très sensibles à vous et c'est pour ça que vous allez rester avec les auditeurs. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le coup d'après.
Oui, effectivement, je
vois. Mais non, mais je vois dans la stratégie de Marion Le Pen. Marion Maréchal, je ne veux pas dire qu'elle se moque de cette élection, mais je pense que ce n'est pas son problème, cette élection. Je pense qu'elle voit le coup d'après. Et c'est de cela dont on parlera avec vous, avec les auditeurs, qui va d'ailleurs avec le ralliement également de Gilbert Collard. C'est-à-dire qu'on imagine déjà ce que sera la droite ou les droites après la campagne présidentielle. A tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Elle sera la deuxième femme seulement à ce poste dans le CAC 40 avec Catherine MacGregor chez Engie. On est très loin de la parité.
Oui, c'est vrai, et elles seront bientôt trois, hein, puisque Veolia va aussi nommer une directrice générale, Estelle Brachlianoff, 3
bientôt
sur 40.
Bientôt trois, donc pour l'heure, elles sont deux femmes seulement parmi les dirigeantes du CAC 40. Dernière venue, c'est, vous l'avez entendu, Christelle Edman, nommée ce matin directrice générale par le conseil d'administration d'Orange. Elle prendra ses fonctions début avril. C'est la première fois que le groupe Orange sera dirigé par une femme. Alors la France est-elle vraiment à la traîne? Que faire pour plus de parité dans les instances dirigeantes? C'est le deuxième débat de RTL Midi. Bonjour Dominique Carlac.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente du MEDEF et porte-parole du MEDEF. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Deux femmes patronnes d'une entreprise du CAC 40, bientôt trois. 14 femmes parmi les patrons des 120 plus grosses entreprises du pays. C'est très peu, ça progresse. Il y a 10 ans par exemple, il n'y en avait aucune.
Oui, alors d'abord, il faut d'abord se réjouir de la bonne nouvelle du jour. Hein. Christelle Edman est une femme extrêmement compétente. Il se trouve qu'en plus, c'est une femme, donc on peut se réjouir. D'abord, c'est une très bonne nouvelle pour Orange, c'est une femme très compétente. Alors oui, ça progresse depuis 10 ans. Donc là, on va avoir 3 femmes patronne du CAC 40, donc c'est plutôt un signe de réjouissance aussi pour l'ensemble, je dirais, des entreprises. Hein. Et puis, ce qu'il faut quand même dire, c'est que le CAC 40, c'est aussi un symbole. Donc c'est vrai que ça parle beaucoup de se dire, bon, voilà, on aura 3 femmes en 2022 qui seront à la tête d'une entreprise du CAC 40, mais ça reste un symbole, le CAC 40. Et c'est l'arbre, quelque part, qui cache la forêt, parce que finalement, quand on regarde la totalité de la population des dirigeants français, il y a quand même 30% de femmes qui sont dirigeantes. Mmh. Donc c'est vrai que c'est les PME qui font le gros des troupes, si je puis dire. Mais voilà, c'est un premier, quand même, un premier voile qui se lève. Le CAC 40 est un symbole, donc ça nous permet de parler du sujet. Ça cache le fait qu'il y ait 30% de femmes en général dans les PME et dans les entreprises françaises qui le sont. Et puis surtout, ce qui est important de rappeler aux auditeurs, c'est que pour une fois, la France est plutôt en haut des classements mondiaux.
Mais on fait plutôt mieux que les États-Unis ou l'Allemagne.
Oui, on fait beaucoup mieux. Et si vous prenez des pays comparables en termes d'économie, en termes de valeurs de société, en termes d'organisation sociale, que ça soit l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, nous sommes en France très en avance sur la féminisation des instances dirigeantes des entreprises.
4 dirigeantes. Et c'est d'ailleurs pour les 110 plus grosses entreprises, par exemple, aux États-Unis, Pascal.
Non, mais je suis à la fois surpris par ce que vous dites, parce que je trouve que évidemment 3 femmes, c'est quand même très peu, et vous me dites
3
que
sur 40,
oui, 3 sur 40, c'est quand même très peu, et vous me dites que on est en avance par rapport aux autres pays. Donc je me dis, les autres pays sont très en retard pour le coup.
Les autres pays sont en effet très en retard et quand vous cumulez les 3 indicateurs que sont d'une part les femmes vraiment dirigeantes, hein, d'autre part les femmes dans les comités exécutifs et enfin les femmes dans les conseils d'administration, mais en fait tout confondu sur ces critères-là, la France est en avance. Et c'est pas nous qui le disons, hein, c'est pas autodéclaratif MEDEF, c'est vraiment les classements type OCDE.
Mais alors vous, femme dirigeante, du coup, vous dites tout va bien.
Non, on ne dit pas tout va bien. On dit la bonne. Non, on ne dit pas tout va bien. Non, non, nuançons le discours. On ne dit pas tout va bien. On dit la bonne nouvelle, c'est que ça progresse et que c'est très bien que de temps en temps on puisse annoncer ce genre de bonne nouvelle.
Mais en fait, on ne devrait pas l'annoncer. Je m'excuse.
Exact. Mais vous avez tout à fait raison.
En fait, là,
non, mais vous avez tout à fait raison.
Ça devrait être une bonne info.
Là-dessus, une bonne info. Mais pourquoi
on est d'accord.
Pourquoi il y a des réticences encore dans les grands groupes? Pourquoi?
Non, il y a pas de réticence. Il y a, je dirais, deux choses. Il y a d'une part les stéréotypes intériorisés de la société dans son ensemble, où quelque part, le pouvoir est incarné, porté par les hommes. Et ça, c'est générationnel. Aujourd'hui, personne ne veut plus de ça. Personne ne veut, n'a cette conception de l'exercice du pouvoir, quel qu'il soit. Bah, je ne parle pas que dans les entreprises.
Je pense qu'il y a encore quelques réticences, forcément.
Alors, maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument booster, promouvoir le vivier au nom de la compétence, de la performance,
et donc
de l'efficacité. Et que derrière tout ce qui a pu pousser les discours qui font progresser la société dans son ensemble, la diversité, etc. Maintenant, il y a aussi la question de l'efficacité. On cherche tous des talents, on cherche tous des compétences. Eh bien, ce n'est pas genré. Bonne nouvelle, ça n'est pas genré. Et donc maintenant, dans les entreprises et dans les organisations patronales en particulier, en tout cas, on cherche à constituer des viviers de femmes pour les rendre plus visibles et pour qu'elles accèdent à ces postes.
D'autant que dans ces grandes écoles qui forment ces grands dirigeants, j'imagine que c'est 50-50.
Alors, pas tout à fait. En fait, on a un fort déficit au démarrage de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Typiquement, Christelle Henneman, elle est polytechnicienne, donc elle a fait une très grande école d'ingénieurs. Donc, elle arrive au pouvoir, elle arrive à un poste, mais il se trouve que le recrutement en école d'ingénieurs est beaucoup plus masculin encore que féminin. Pourquoi ? Parce que la formation scientifique, la formation aux sciences, reste quand même beaucoup plus masculin aujourd'hui, mais dès l'école, que féminin. Donc là-dessus, il faut qu'on travaille. Nous, c'est dans les propositions du MEDEF qu'on a fait cette semaine, on veut davantage travailler sur la féminisation des sciences, sur la féminisation de l'éducation dans les sciences pour avoir plus d'ingénieurs eux. Et donc, de ce fait, avoir plus de cadres qui puissent accéder à des fonctions de direction aussi.
Eh bien, merci. On rappelle que longtemps, Polytechnique n'était réservé qu'aux hommes. C'est assez récent que Polytechnique soit ouvert aux femmes. Ça doit avoir une 40 ans, peut-être. Je vais vérifier durant la pause. Merci beaucoup, madame Carlac. Vous êtes vice-présidente du MEDEF. La pause et le rappel des titres dans une seconde. RTL Midi.